Bonjour à tous, émission spéciale sur Radio Prévert pour clôturer la saison. Aujourd'hui, nous recevons Romain Lemoigne, élu maire de La Flèche en mars dernier, puis président de la communauté de communes du Pays Fléchois en avril. Avec lui, nous allons balayer l'actualité dense de ce début de mandat marqué par l'installation d'une nouvelle majorité pour gérer les affaires de la cité. Romain Lemoigne, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
C'est un plaisir. Vous savez bien qu'on aurait dû faire cette émission plus tôt, aux approches des 100 jours, mais c'est le moment de clôturer, comme je disais à l'instant, la saison avec vous, qui avez été confronté il y a quelques jours. On va commencer par ça, si vous voulez bien, avant les sujets plus politiques. Selon certains, c'est dans les moments de crise que les gens se révèlent ou révèlent leur nature. Vous m'en direz ce qu'il en est pour vous. Toujours est-il que le mercredi 15 juillet, il y a eu cet orage supercellulaire, comme disent les prévisionnistes.
Exactement.
Qui est arrivé de façon, on va dire, imprévisible. Nous tous, on l'a vu dans les prévisions qu'il était annoncé un orage sur le territoire. Mais là, à imaginer ce qui est arrivé, je suis sûr que vous n'étiez pas sur cette analyse-là. Ce n'est pas ce que vous attendiez.
Tout à fait. Pour tout vous dire, comme chaque élu et comme l'ensemble des différents membres des services, on regarde avec attention la météo quelques jours à l'avance et surtout à J-1. Et c'est vrai que l'orage, comme vous le dites, était annoncé, mais pas d'une telle ampleur. Et c'est vrai que j'avais un rendez-vous à 17h30 à l'extérieur. Donc je m'apprêtais à prendre ma voiture. Et puis le moment où je m'apprête à prendre ma voiture, l'orage a commencé à sévir d'une manière, d'une violence inouïe, quasiment de manière instantanée. On a vu des chutes de branches, puis des chutes d'arbres. Moi, j'entendais au niveau de la mairie des fenêtres qui claquaient, parce que normalement, il faisait chaud le reste de la journée, donc il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes. Mmh. Et très vite, on a compris qu'il se passait quelque chose, quoi. C'est-à-dire que, pareil, en 15-20 minutes, il y avait des rues qui étaient inondées, notamment au niveau de la rue de Maréchal Foch. On a très vite compris qu'il y avait, enfin, la promenade de Maréchal Foch, on a très vite compris qu'il y avait un orage supercellulaire et qui était bien au-delà de ce qui était attendu et prévu par Météo France. Donc en fait, dans la demi-heure, j'ai appelé le DGS et la directrice générale adjointe pour qu'on réunisse la cellule de crise, ce qu'on appelle la cellule PCS, parce qu'en fait, dès qu'il y a une crise communale, on réunit ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde. En fait, c'est donc une cellule de crise, les principaux membres de la collectivité réunis en situation de crise, dans une salle dédiée. Et donc, lors de cette cellule de crise-là, on active donc le PCS, le plan communal de sauvegarde, à savoir un certain nombre de mesures d'urgence, donc d'appels aussi aux agents. Et donc, en fait, quasiment dès le soir même, on avait à peu près 60 agents mobilisés pour venir notamment déblayer les routes, sécuriser les voies et avenues où il y avait du danger, hein, parce que il y a des branches et arbres qui ont chuté, enfin quasiment instantanément, mais il y a aussi eu l'après. Et d'ailleurs, il y a encore un après aujourd'hui, parce que encore à l'heure actuelle, ce matin, nos services sont intervenus dans une rue de la ville pour sécuriser une route qui est dangereuse, puisqu'il y avait un arbre qui menaçait de tomber. Donc, voilà. Il y a eu la crise le 15 juillet.
La crise continue.
Mais la crise en réalité continue, il y a l'après, et il faudra des semaines avant que tout soit parfaitement rétabli. Et je salue encore une fois les agents qui ont fait preuve d'un professionnalisme objectivement remarquable et qui continuent à être dévoués chaque jour.
Des administrés ont été touchés.
Tout à fait.
Maisons inondées. Des gens qui, pour certains, se sont retrouvés sans toit. Et la collectivité a même dû recourir au service de la Croix-Rouge, Gymnase du Québec, vous avez invité le soir même, puisque moi je suivais les événements, comme pour dire, avec vous en fil rouge, puisque pour rien cacher aux auditeurs, nous on était en session dans nos activités, on va dire, syndicales, et quand j'ai vu votre alerte arriver, et donc ça a été ça, les premières décisions, sécuriser.
C'est ça, d'abord sécuriser les routes et à la fois communales et aussi départementales, parce que les équipes techniques du département sont intervenues assez rapidement, mais non, en premier volet, il y avait d'abord les équipes communales. C'est bien sûr avoir un recensement de toutes les personnes potentiellement victimes, hein, parce qu'on avait évidemment le capitaine des pompiers, le capitaine Sterlin, qui assistait à la cellule de crise. Et à chaque fois, évidemment, on lui demandait de manière très, très régulière un point précis de la situation, parce qu'en fait, les pompiers, quand il y a ce genre de crise, sont chargés de faire une reconnaissance sur toute la ville. Et donc, les pompiers ont fait la reconnaissance, pareil, dès le début de la crise. Et le grand soulagement pour nous, hein, que ce soit dès le début de la crise jusque dans la nuit, hein, parce que même pendant la nuit, on a travaillé, c'est qu'il n'y a eu aucune victime. Enfin, en tout cas, voilà, évidemment, aucun mort et aucun blessé grave. Et ce qui est quand même une très grande nouvelle, puisque évidemment, c'était notre inquiétude principale. Toutefois, il y a quand même eu effectivement des victimes au sens matériel du terme, hein, puisque comme vous le dites, il y a eu un certain nombre d'habitants qu'il a fallu reloger. D'ailleurs, dès le soir même, on a effectivement ouvert, j'ai pris cette décision d'ouvrir un centre d'hébergement en urgence, donc originaire du petit Québec, hein, pour permettre à notamment deux familles de pouvoir être le temps de la nuit relogé. Ensuite, en fait, les jours qui ont suivi, on a continué le relogement, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui étaient partis en vacances, qui sont revenus. Donc, c'est environ 15 à 20 demandes de relogement qui ont été traitées et suivies, qui le sont toujours d'ailleurs. Mmh. Parce qu'on a des personnes qui ont depuis demandé à avoir accès à un logement communal, parce que c'est que la ville a aussi des logements communaux. Donc, le travail continue. Heureusement, le danger est globalement écarté. Toutefois, comme je le précise souvent aux administrés que je croise, il faut rester vigilant à proximité des zones boisées, puisque en fait, voilà, on a à peu près 6000 arbres sur la commune. Donc là, je parle bien du patrimoine communal, hein, pas du patrimoine départemental sur les routes départementales, mais bien du patrimoine communal. 6000 arbres et 2000 ont été touchés, soit par des chutes de branches, ou soit par carrément l'arbre qui a chuté, quoi. Ce qui veut dire quand même qu'un tiers du patrimoine arboré a été impacté. Mmh. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les 4000 arbres restants ne sont pas fragilisés. Il y en a forcément une partie qui sont fragilisés, surtout ceux qui sont tricentenaires, par exemple. Et donc un inventaire va être fait dans les meilleurs délais, hein. D'ailleurs, c'est déjà lancé, pour faire un suivi et une analyse précise de l'état du patrimoine arboré. Et en attendant, voilà, il faut rester très vigilant. Alors la bonne nouvelle aussi, et d'ailleurs c'est celle de la journée, c'est que le lac de la Monnerie, le lac de loisirs, est désormais officiellement réouvert. Okay. J'avais pris un arrêté pour interdire, malheureusement, mais c'était une question de sécurité publique, interdire l'accès au pourtour, en fait, du lac, hein, puisqu'il y a, encore une fois, il y avait des arbres qui menaçaient de chuter, ou des branches, et puis d'ailleurs il y avait aussi des branches qui étaient encore sur le chemin et qui entravaient la circulation. Donc tout cela a été en grande partie sécurisé, et maintenant, voilà, c'est déblayé. Donc on peut de nouveau prendre son vélo, et c'est aussi un plaisir pour moi qui aime le sport, et courir, faire du vélo, de pouvoir retrouver un lac de la Monnerie, un lac de loisirs qui est pleinement accessible. Les voies vertes, cela ne saurait tarder, hein, c'est pareil, dans quelques jours normalement. Donc tout cela a pris un peu de temps. On aimerait tous que ce soit encore plus rapide, mais je peux vous témoigner du travail colossal qu'ont fait les agents, et qu'ils font encore. C'est une masse de travail qui est vraiment énorme, parce que toute la ville est impactée. Certains quartiers plus que d'autres, certes, mais toute la ville est impactée. On a encore des interventions chaque jour dans des rues diverses et variées. Donc voilà, le travail est immense, mais on va y arriver. Et puis il y aura aussi l'après, c'est-à-dire comment on rebondit face à tout cela. Et donc c'est aussi pour cela que moi j'ai annoncé un plan quinquennal de reboisement. C'est-à-dire l'idée de, sur 5 ans, de reboiser progressivement les endroits qui ont été saccagés, quoi, en fait.
Un plan quinquennal de reboisement, mais d'ici là, ce que vous aurez noté, c'est ce formidable élan de solidarité. Est-ce que vous continuez, Romain Lemoigne, maire de La Flèche, à dire aux habitants du territoire que ce qui est essentiel, peu importe d'où nous venons, peu importe nos convictions philosophiques, politiques, etc., ce qui est essentiel, c'est la solidarité, comme on l'a vu dans les rues où des gens sont allés tronçonneuses, je ne sais quoi, etc., pour aider les autres sans arrière-pensée.
Vous avez entièrement raison. Dans ces moments-là, la politique, et surtout la politique partisane, s'efface. Et ça que je veux saluer, c'est-à-dire émouvant, hein, le soir même, hein, parce que dans l'heure qui a suivi la crise, les habitants, spontanément, venaient en aide à leurs voisins, que ce soit en prenant soin et en prenant de nouvelles du voisin à côté de ses choix qui était potentiellement victime. Et ça allait aussi comme vous l'avez dit, hein, on sort la tronçonneuse et on va nous-mêmes déblayer les routes. Et c'est vrai que main dans la main, que ce soit au niveau des agents, des habitants, des associations, il y a un travail formidable qui a été fait. Et franchement, c'était un élan de solidarité vraiment touchant. Et d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi la Croix-Rouge, hein, qui a fait un très très gros travail, comme à son habitude, La Croix-Rouge était au rendez-vous dès le soir même. Il y a aussi des entreprises qui nous ont aidés hein, pour aider des sinistrés. Je pense notamment à Bricomarché, mais pas que. Donc voilà, on a vu que toutes les forces vives de la ville se sont mobilisées dès le soir même et continuent à le faire. Et c'est vrai que c'est quand même une formidable nouvelle. Et voilà, ça en dit long sur l'ADN d'entraide qui constitue la Flèche.
Est-ce que c'est aussi pour cette raison-là que vous vous êtes dit il faut accompagner les gens qui ont perdu des biens matériels, heureusement, hein, et qu'il n'y a pas eu de décès de personnes impactées dans leur chair gravement. Et est-ce que c'est aussi pour cette raison-là que vous avez dit bah, il faut qu'on demande à ce qu'il y ait le classement en état de catastrophe naturelle ?
Alors, quoi qu'il arrive, on l'aurait demandé, évidemment, puisqu'il y a des victimes, voilà, il y a des habitants dont leur habitation a été inondée à plus d'un mètre vingt d'eau. Enfin, moi, je pense notamment au quartier de Véron, qui a été, je pense, le plus impacté. Dans la rue traversière, il y a un certain nombre d'habitations où il y a eu plus d'un mètre d'eau dans la maison au moment du sinistre. Hein. Moi, je me souviens parce que j'ai moi-même pris ma voiture aussi avec les forces de l'ordre pour faire une reconnaissance le soir et se rendre compte. Et c'est vrai qu'à Véron, c'était vraiment affligeant. Quoi. Des fois, on voit des images d'inondations à la télé, on ne se rend pas compte, on n'imagine pas que cela puisse arriver chez soi.
Exactement.
Et quand on le voit, c'est très saisissant. Et donc, effectivement, immédiatement, avec les services compétents, notamment le service juridique de la collectivité, on a constitué un dossier pour demander la reconnaissance aux catastrophes naturelles, qui malheureusement, l'État nous l'a certifié en retour, ne pourra concerner que la partie inondation et coulée de boue. C'est-à-dire que la préfecture et l'État nous ont dit que pour le reste, la partie tempête, arbre qui chute ou arbre fragilisé, cela relève des assurances. Et donc c'est vrai qu'on a bien rappelé, notamment que ce soit aux assurances ou même aux habitants sur le site de la ville, entre autres, que c'était bien le rôle des assurances de prendre en charge la partie tempête, en fait. Et c'est aussi pour cela que moi, j'ai établi un contact avec France Assureur au niveau national. Donc je passe à une échelle supérieure, pour, voilà, pour bien rappeler aux assurances le rôle qui est là, parce que forcément pour elles c'est aussi une étape, une situation qui est anormale, hein, parce qu'il y a des assurances où il y a plus de 150 ou 200 dossiers d'ouvert, donc la charge de travail est énorme. Voilà. Toutefois, on espère évidemment pour les victimes d'inondations et de coulées de boue que le régime de CatNat, comme on dit dans le jargon, sera admis par l'État et la réponse sera sous 2 à 3 mois maximum, c'est ce que m'a dit monsieur le préfet. Voilà, c'est une cellule ministérielle qui se réunit, qui prend la décision ou non, mais il nous faut donc un peu de temps et il va falloir donc être un petit peu patient.
Un plan quinquennal de reboisement, vous nous l'avez dit sur Radio Prévert, est-ce que en prévision il y a aussi quelque chose à laquelle vous appelez tous les citoyens, puisque on nous a dit que l'été qu'on vit est peut-être le moins chaud ou le plus... ouais c'est ça, le moins chaud qu'on connaîtra. Est-ce que, compte tenu de ce qui est arrivé là, parce que oui, vous avez raison de dire que c'est des choses qu'on voit plutôt à la télé, des inondations de cette nature-là, et le vent, ce que je vous l'ai appris, Radio Prévert, depuis que l'antenne de Radio Prévert existe ici, nous aussi, on a été impactés, le pylône a tourné, au lieu de pointer vers Pont-Vallin, il pointe vers Sablé. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez des habitudes de travailler avec le pays savolien que la nature nous a joué un tour. Ça, c'est pour l'humour, c'est facile. Mais voilà, donc est-ce que ça veut dire qu'il faut être en alerte maintenant, plus que jamais, pour éviter qu'on ait à gérer ces situations d'urgence? C'est aussi ça, ce à quoi vous allez être astreint, non pas seulement vous, mais nous allons être astreints collectivement.
Tout à fait, vous avez entièrement raison. Il y a un phénomène climatique qui est là et qui est bien, bien tangible. Et en effet, la Flèche a été la ville en Sarthe qu'on a fait le plus les frais ces derniers jours, notamment avec la tempête. Hein. Mais pas que, comme vous l'avez dit, on a vécu aussi la canicule. Qui n'est d'ailleurs pas très loin, hein, et peut revenir très rapidement.
Chaud. Je vous l'accorde dans ce
studio. Il fait très chaud, et un peu partout d'ailleurs. Et donc c'est clair qu'on a eu un début de mandat où tout de suite on a été mis dans le bain, si je puis dire. Et il est clair qu'il faudra, et donc c'est toute notre action, hein, anticiper au maximum ce type de situation. Et c'est aussi pour cela qu'on a mis en place une première au niveau de la ville, ce qu'on appelle un protocole forte chaleur. En fait, c'est un protocole qui permet de réviser les horaires des agents selon les chaleurs. C'est-à-dire que dès qu'on passe en vigilance orange, ils vont travailler essentiellement le matin jusqu'à environ midi. Et si on passe en vigilance rouge, les horaires sont encore encore réaménagé de manière à ne confronter personne, ni les agents, ni les usagers du service public, à des chaleurs extrêmes. Donc on a ce protocole-là qui est mis en place. On a aussi une salle rafraîchie au cinéma qui est ouverte lorsqu'il fait très chaud pour permettre notamment aux personnes âgées ou vulnérables tout simplement d'avoir une salle climatisée et avec l'appui de la Croix-Rouge. Donc on a des mesures, on a un catalogue de mesures qui est prêt à être mis en place désormais, qui est parfaitement opérationnel. Et donc on sait maintenant que dès qu'il y a une canicule à fortiori extrême qui se déclenche, on sait comment réagir. Et c'est clair qu'il faudra s'y préparer pour les années à venir. C'est aussi mettre en place ce qu'on appelle la végétalisation. Hein. Ça fait partie de mon programme. Et d'ailleurs, ça correspond aussi, ça rentre dans le cadre du plan de reboisement. Il y a des îlots de chaleur en ville qui doivent devenir des îlots de fraîcheur. Et donc il faudra effectivement au maximum privilégier des îlots de fraîcheur. Donc ça passe par des zones arborées, au moins végétalisées. Et c'est aussi pour cela qu'en ce moment, il faisait très chaud hier après-midi, en ce moment je fais des visites de quartier, je prends mon vélo avec un membre des services et un élu, et on fait quartier par quartier un repérage, parce qu'en fait dans certains de nos quartiers il y a des aires de jeu, mais des aires de jeu en plein soleil, donc ce qui n'est pas adéquat, donc tout ça il faudra le réviser alors, petit à petit, hein, parce que bien sûr on ne peut pas tout faire en un seul exercice, mais c'est partie de mes priorités et il faudra y venir.
Est-ce que cet épisode d'orage supercellulaire et puis les conséquences qui se poursuivent encore maintenant, est-ce que ça va avoir un impact financier important de nature à peut-être désarticuler ce que vous aviez prévu au préalable pour les prochains mois, les prochaines semaines ?
Alors, c'est clair que dans l'immédiat, pour les prochaines semaines, nos agents ont été très fortement mobilisés, ils sont toujours sur la gestion de l'après, hein, de l'après-crise. Donc il y a des coûts indirects, parce que forcément, ce qu'on a fait en période de crise, on ne l'a pas fait. Enfin, on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire autrement, hors crise. Ouais. Donc il y a des coûts indirects qui sont importants. Il y a aussi des coûts directs assez colossaux là aussi, puisqu'on a fait appel des prestataires, hein, dès qu'il y avait notamment au niveau de Montréal des très gros arbres couchés. Bon, ça, on a besoin d'avoir une entreprise extérieure qui puisse avec une nacelle récupérer tout ça. Donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent aussi. Donc
je
forcément
vous l'accorde.
Le coût pour la collectivité sera important, parce que les assurances ne vont pas pouvoir tout prendre en charge. C'est pas un scoop. Hein. Donc pour tout vous dire, le chiffrage il est en cours. Hein. J'ai pas encore de montant suffisamment précis pour vous donner une estimation. Mais il est clair que cela aura un coût conséquent et un impact dans les prochaines semaines. Après, j'espère le rattraper relativement assez rapidement, de manière à ne pas handicaper mes objectifs, enfin nos objectifs.